la chambre de prière du croyant. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Je vous ai dit que je ne dirai rien que vous ne sachiez déjà. Matthieu 6, verset 6. C'est Jésus qui nous dit « quand tu pries ». Et on va voir ce qu'il veut dire par là « quand ». Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Regardez ce que dit la version du semeur. Quand tu veux prier, et précédemment c'était quand tu pries, et lui, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus reculée. Et verrouille ta porte, et non pas seulement ferme ta porte, verrouille ta porte, et adresse ta prière à ton Père qui est dans le lieu secret. En d'autres termes, pour faire la fusion entre les deux versions, quand tu pries, quand tu veux prier. Entre dans ta chambre, entre dans ta pièce la plus retirée. Ferme ta porte, verrouille ta porte. Je ne sais pas si c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous prions, dans notre chambre ou dans notre demeure, mais voilà la pensée du Seigneur. Car le but dans la pensée du Seigneur, c'est de se retrouver seul à seul avec Dieu. Seul à seul avec Dieu. Matthieu chapitre 14, le verset 23. Matthieu chapitre 14, verset 23. Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart. Pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Alors il y a deux expressions qui le montrent, prier à l'écart, et il était là seul. Donc seul à seul avec Dieu. C'est la pensée de Jésus quand il nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret et qui entend dans le secret, t'exaucera. Alors on va voir premièrement qu'il y a un temps. Il y a un temps pour la prière. Et c'est pourquoi Jésus dit quand tu pries. Quand ? C'est une conjonction dans le texte original. C'est une conjonction, c'est le mot otan. Et qui signifie quand, effectivement, mais qui signifie aussi beaucoup d'autres choses, ce quand, cette conjonction. Il signifie autant de fois que, et pas seulement quand. Autant de fois que. Donc, autant de fois que tu pries. Ça signifie aussi « toutes les fois que ». Donc, « toutes les fois que tu pries ». C'est beau, hein ? Si j'étais à votre place, je dirais « Amen, Seigneur, c'est beau ». Ça signifie aussi « aussi longtemps que ». Donc, « aussi longtemps que tu pries », nous dit le Seigneur. Ça signifie « aussi souvent que ». Donc, « aussi souvent que tu pries ». Vous voyez, ça n'est pas limité à un tout petit moment, puis l'affaire est terminée. Non. Autant que de fois que tu pries, toutes les fois que tu pries, aussi longtemps que tu pries, aussi souvent que tu pries, lorsque tu pries. Donc, finalement, on comprend que le temps de la prière du croyant pour être seul à seul avec Dieu, finalement, c'est toujours, c'est tout le temps. Le matin, le midi, le soir, la nuit, en voiture, dans l'église, n'importe où. Il y a un temps pour la prière. Maintenant, il y a un lieu pour la prière. Toujours dans la pensée de Jésus, il y a un lieu pour la prière. Entre dans ta chambre. Pour Jésus, c'est précis. Entre dans ta chambre. La version synodale dit « retire-toi dans ta chambre ». Et la version du semeur nous dit « entre dans ta pièce la plus reculée. » Alors ça, c'est pour ceux qui ont des maisons avec des quantités de chambres, de pièces et de débarras. Quand j'étais pasteur stagiaire à Toulouse, dans l'église de Toulouse, dans les années 60, au début des années 60, j'aimais bien me retirer dans le jardin où il y avait un tout petit bâtiment où on entassait les paquets de linge à distribuer à la fripe. Et j'aimais bien aller me retirer seul à seul avec Dieu dans ce petit bâtiment. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y avait tellement de puces que je passais plus de temps à me gratter que de prier le Seigneur. Mais j'avais ce désir déjà de me retirer pour être seul à seul avec Dieu. La chambre. Je remarque, et je le sais, et vous le savez aussi, les croyants n'ont pas tous forcément une chambre personnelle pour prier. C'est pourquoi moi je n'en avais pas et j'allais dans la cabane des puces. Les croyants n'ont pas tous de chambre personnelle pour prier. Mais Jésus n'en avait pas non plus. Lui qui nous dit « prie dans ta chambre », il n'avait pas de chambre lui-même. Et pourtant, il nous dit « entre dans ta chambre ». Luc chapitre 9, verset 58. Luc chapitre 9, verset 58. Jésus lui répondit à quelqu'un « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. » Et en ce qui le concerne, après la virgule, il dit « Mais le Fils de l'homme que je suis n'a même pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Alors si Jésus n'avait pas un lieu pour reposer sa tête, il n'avait pas de chez lui et donc il n'avait pas de chambre. Et pourtant, il nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Il ne nous demande pas de faire une chose qu'il ne pouvait pas faire lui-même. S'il nous demande de prier dans notre chambre, c'est que lui-même avait trouvé le moyen quand même de prier. Alors pour prier, eh bien, lui qui n'avait pas de chambre, il le savait, c'est lui le créateur de toutes choses. Il a vu que sa chambre, finalement, c'était la nature. C'était la nature globalement, dans son ensemble. Et c'est pourquoi, par exemple, Luc chapitre 5, verset 16, et il y a d'autres versets, il nous est dit qu'il se retirait au désert, dans le désert, pour prier. C'est calme. On peut être vraiment seul à seul avec Dieu dans le désert, lui qui n'avait pas de chambre. Mais il désirait tellement communier avec Dieu son Père, sans aucune interférence de la part du monde. Alors il se retirait au désert. Sa chambre, c'était le désert. Alléluia. Matthieu chapitre 14, verset 23. Et il se retirait, on vient de le lire tout à l'heure, sur la montagne. Alors surtout s'il grimpait tout à fait au sommet, il n'y a aucune interférence. Il est parfaitement seul à seul avec Dieu. Et dans le silence des sommets, il pouvait ouvrir son cœur et prier Dieu son Père. Le désert, la montagne, voilà la chambre qu'il avait trouvée. Luc chapitre 9, le verset 18, mais il y a bien d'autres textes chaque fois. Il se retire à l'écart. Alors c'est à l'écart, ça n'est pas forcément là-bas au désert ou là-haut sur la montagne, mais à l'écart, c'est un peu plus loin de la populace. Et là, à l'écart, dans la tranquillité, dans la solitude, dans le silence, il pourra parfaitement être seul à seul avec Dieu son Père et prier. Le chrétien n'a pas forcément une chambre, un lieu de prière chez lui où il peut se mettre seul à seul avec Dieu parce qu'il y a les mouvements, l'animation de la famille, surtout s'il y a des enfants, se retirer dans la chambre. Lorsque je faisais mes obligations militaires, mon service militaire, c'était pendant la guerre en Afrique du Nord, un jour j'ai obtenu une permission. Alors je déambulais dans la ville, mais comme j'étais un jeune chrétien, je voulais prier. Ma maison, la maison de ma mère était loin, au-delà des frontières, et je n'avais pas de lieu pour prier. Alors je vais vous donner une idée. Comme ça, le jour où vous ferez votre service militaire, vous saurez comment il faut faire pour prier en tant que chrétien, désireux d'être seul à seul avec Dieu, alors que vous n'avez pas de chambre. Alors je déambulais dans la ville et je repérais les immeubles. Peut-être que d'autres l'ont fait avant moi, mais personne ne me l'a dit. Et je repérais les plus hauts immeubles, 10, 12, 15 étages. Et j'y allais tout bonnement, je rentrais dans l'ascenseur, en bas, j'appuyais au 15e étage. Et tout le temps que l'ascenseur montait au 15e étage, je priais le Seigneur. Arrivé en haut, j'appuyais sur le bouton du bas, et tout le temps qu'il descendait, je priais le Seigneur. Quand il rentrait quelqu'un, « Bonjour madame, bonjour monsieur », dès que les gens sortaient, j'appuyais sur le 15e, et tout au long de la montée, tout au long de la descente, c'était un moyen comme un autre. Quand on n'a pas de chambre, si on veut vraiment se retirer devant le Seigneur, on trouvera toujours un moyen, toujours un moyen qui fera office de chambre. Alors se retirer dans la chambre, au désert, à l'écart, cette expression signifie que tout laisser, et Dieu sait combien de choses nous avons à faire, de préoccupations que nous avons, tout laisser pour rencontrer le Seigneur. Et ça, c'est une chose qui n'est pas impossible, qui n'est pas difficile. Il suffit de le vouloir. Et de par l'amour que nous avons pour notre Sauveur, de par l'amour que le Seigneur a pour chacun d'entre nous, si on veut vraiment le rencontrer, on trouvera toujours un moyen, on trouvera toujours un petit temps, on trouvera toujours un lieu, que ce soit chez nous ou pas chez nous. Mais bien sûr, l'idéal, c'est chez soi, bien à l'abri du bruit, et bien sûr aussi dans le cadre de l'Église, avec nos frères et avec nos sœurs, pour partager ensemble nos sujets de prière. Tout laisser pour rencontrer Dieu. Eh bien, c'est ce que faisait Jésus. Jésus était certainement plus occupé que chacun d'entre nous, et peut-être que nous tous à la fois, il était bien plus occupé, Jésus. Alors, il se retirait dans les déserts, comme on l'a vu, à l'écart, sur la montagne, et il priait. Je vois que, par exemple, Daniel, que nous citons souvent dans nos réunions, Daniel le prophète, c'était pourtant le plus haut dignitaire de l'Empire babylonien, auprès du roi Darius. Lui, l'esclave, Daniel, le bien-aimé de Dieu. Je cite cette pensée-là pour montrer que nous ne sommes certainement pas surchargés d'activités, de responsabilités, de prérogatives, nous, que lui. Lui, il était plus que le premier ministre, il était presque le président. Presque, mais le président, c'était le roi Darius. C'est dire qu'il avait à faire la gestion, non pas d'un pays, mais d'un empire, puisque Darius lui avait confié une telle responsabilité. Et on connaît bien ce texte-là, Daniel chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Parce que là, il y a une menace de mort. Il avait été décidé que personne n'invoque quelque dieu que ce soit, sinon le roi Darius. Et celui qui serait surpris à invoquer une idole ou un dieu quel qu'il soit, il serait jeté dans la fosse aux lions. Et c'est pourquoi il est dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, qu'est-ce que nous aurions fait, nous? Nous aurions dit, Seigneur, secours-moi. Seigneur, protège-moi. Seigneur, viens à mon aide. Lorsqu'il sut que le décret était écrit, alors que maintenant il risque sa vie, quoi qu'il soit le Premier ministre, il se retira dans sa maison, j'imagine dans sa chambre, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux comme il le faisait autrefois. Il priait et il louait Dieu comme il le faisait auparavant. Ça nous humilie. ça nous humilie. Il nous est peut-être arrivé parfois, peut-être une seule fois, de dire « je n'ai pas de commodité à la maison pour prier ». Un collègue qui a commencé dans le Saint-Service en même temps que moi, au début des, tout début des années 60, il me disait un jour « Robert, quand je me retire dans ma chambre à la maison pour prier, et je prie aussi en langue, mais pour prier, pour louer, pour adorer le Seigneur, mon père qui passait dans le couloir tapait à la porte de la chambre et il me disait « Tu veux arrêter de parler avec le diable ?» On n'a pas toujours les commodités pour se retirer à un endroit où on ne sera pas dérangé, pour avoir la paix avec Dieu et chercher sa face. Malgré que c'était un risque pour sa vie, Daniel l'a pris. Daniel l'a pris. Alors que Dieu nous fasse la grâce, non seulement d'avoir toujours ce désir, ce vif désir de communier avec lui, par la prière, par l'adoration, par l'action de grâce, en chantant ses louanges, mais qu'il nous en donne aussi l'endroit, ce qui n'est pas toujours facile. Je vous donne un exemple pour montrer que lorsque le croyant veut prier, être seul à seul avec Dieu, ça n'est pas toujours facile. C'était encore pendant mes obligations militaires. C'était pendant la guerre là-bas. Le midi, souvent, je me privais de manger, je n'allais pas au réfectoire avec les soldats, et je me retirais, vous ne saurez jamais où, pour être seul à seul avec le Seigneur. Quand vous allez m'entendre, vous allez dire, moi je ne ferai jamais une chose pareille. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. J'allais dans les WC, parce que je savais qu'à l'heure du repas, personne ne venait à cet endroit-là. Et pendant l'heure du repas, où les copains mangeaient, j'étais là dans la présence de Dieu. C'était des WC automatiques. Alors la chasse se tirait toute seule, toutes les minutes. Alors quand je sentais qu'elle arrivait, hop, je me levais, priais. Quand elle s'arrêtait, je m'asseyais, car j'avais mis des feuilles de papier. Se lever, s'arrêter, se lever, s'abaisser. Prier ainsi. Mais j'y ai fait de belles expériences, non pas à cause du lieu, mais parce que le Seigneur est partout où nous cherchons sa face. Jacob, quand il a découvert la maison de Dieu, il n'était pas dans un bâtiment aussi illustre que le nôtre. Il était en rase campagne, puisqu'il fuyait son frère Ésaü. Il avait reposé la nuit sa tête sur une pierre. Et il eut ce fameux songe de l'échelle qui se posait à côté de lui et qui allait jusque dans le ciel. Et les anges qui montaient et qui descendaient. Et Dieu lui a parlé dans cette vision-là. Et quand Jacob s'est réveillé, il a dit « Mais c'est ici la maison de Dieu !» C'est ici la porte des cieux. Comment ? Il est en rase campagne, au milieu des rochers, des cailloux, des arbres, des renards et des oiseaux. Et il dit, c'est ici la maison de Dieu. Et effectivement, le Dieu qui a créé la nature, il fait de la nature une maison où nous pouvons l'approcher, nous tenir devant lui, chercher sa face et l'adorer. Ouh ! Il y a longtemps que j'aurais dit Amen, Seigneur, si j'avais été à votre place. Parce que c'est bon d'être dans la nature et de louer le Seigneur et de l'adorer et de chercher sa face et de combattre le bon combat de la foi comme nous le faisons chaque jour. Maintenant, pour finir, à qui le croyant adresse-t-il sa prière ? Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, verrouille ta porte. À qui adresse-t-il sa prière. Ben, c'est bien sûr à notre Père céleste que nous adressons notre prière. À notre Père céleste. Matthieu 6, verset 9, la version du semeur nous dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux. » Jésus nous a montré qui est le destinataire de notre prière, de notre louange, de notre adoration. Notre Père, Père, voici, je me tiens devant toi. Je vais vous dire une chose encore que vous savez parfaitement bien, parce que vous le vivez. Peut-être que cela vous a même profondément réjoui dans votre relation de prière avec Dieu. Quand tu es dans ta chambre, prie ton Père qui est là dans le secret. Et j'aime à dire que Jésus a bien souligné que Dieu est là présent. Le Père céleste est là présent dans la chambre au moment où nous entrons. Il n'attend pas que nous venions dans la chambre pour descendre du ciel et être avec nous. Lorsque nous ouvrons la porte, que nous entrons, que nous fermons la porte, il est là. C'est pourquoi Jésus dit, entre dans la chambre et prie ton Père qui est là, non pas qui va venir, il est là. Lorsqu'il prie, le croyant est donc assuré de la présence de son Père. Et c'est pourquoi il s'adresse à son Père. Lorsque nous prions chez nous, lorsque nous prions comme on vient de le faire dans l'Église, le Seigneur est là. Et nous nous adressons à notre Père céleste qui est là, à notre Sauveur qui est là. Mais mieux encore, enfin mieux, plus encore, lorsque nous prions dans notre chambre, à la maison, dans l'Église, certes, nous adressons notre prière à notre Père céleste parce qu'il est là. Mais le Fils aussi est là quand nous prions, c'est-à-dire son Fils bien-aimé, c'est-à-dire Jésus, notre Sauveur, est là aussi. Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20, Jésus nous dit, lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. C'est beau de savoir que lorsque nous prions, nous avons affaire à notre Père céleste, à notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ. Mais plus encore, le Saint-Esprit est là aussi. Lorsque nous cherchons la face de Dieu, Romains chapitre 8, verset 26, nous dit, un frère a cité un peu cette parole tout à l'heure dans sa prière. Ce verset nous dit que nous ne savons pas toujours exactement ce qu'il faut demander au Seigneur. Nous ne savons, en somme, nous ne savons pas bien prier. Mais ce texte nous dit, mais le Saint-Esprit est là, il nous vient en aide et il intercède pour nous. C'est comme s'il prend notre prière maladroite, malhabile, il la prend, même si elle n'est pas finie, mais il la connaît et il la prend. Et il plaide notre plaidoyer devant Dieu. Moi, je trouve ça formidable. Quand je prie, le Père céleste, mon Père céleste est là avec moi. Jésus, mon Sauveur, est là avec moi. Le Saint-Esprit, mon Consolateur, est là avec moi. Et quand vous priez, c'est pareil. Et l'instant que nous avons passé dans la prière, c'est ainsi. Tandis que nous prions, I-I-O-N-S, tandis que nous prions, le Père Céleste était attentif à nos prières. Notre Sauveur Jésus était attentif à notre prière. Le Saint-Esprit était là pour nous encourager dans nos propos quelque peu timides ou plutôt hésitants. Nous ne sommes pas tout seuls dans la chambre lorsque nous prions et qu'il nous dit « Verrouille ta porte, ton Père céleste est là, ton Sauveur est là, ton soutien, le Consolateur, l'Esprit de Dieu est là. » Alors, elle n'est pas bonne, la prière. Elle est merveilleuse, la prière. Nous ne sommes pas tout seuls. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Je ne sais pas si je vous ai donné ce témoignage-là. Sur un champ de mission, et ma famille était rentrée en France pour des raisons. Et le pasteur du coin m'avait dit, frère Vicedo, demain on va dans une tribu un peu plus loin pour faire la journée dans la présence de Dieu. Et moi, le matin, avant de partir, j'étais à genoux dans la présence de Dieu. J'étais triste parce que ma famille était loin. Mes enfants étaient encore petites. Et elles me manquaient. Autant les filles, puisque nous avions 5 filles, que ma femme. J'étais triste et disais, Seigneur, j'ai comme envie de retourner à la maison. Je suis triste, je suis malheureux, j'ai le cœur serré. Et je voulais presque ne pas aller dans la tribu où le frère m'invitait pour faire les réunions. Et tout d'un coup, il tape à la porte, c'était 4 heures du matin, et dit, frère Vicedo, il faut partir. Alors je suis parti avec eux dans sa voiture. Et pendant qu'il conduisait à sa droite, j'étais triste et malheureux. J'étais tout seul. Seigneur, je suis seul, je n'aime pas cette solitude. J'aime tellement les miens que tu m'as donnés, je voudrais être auprès d'eux. Arrivé à la tribu, écoutez bien, arrivé à la tribu, quand j'ouvre la porte de la voiture, je mets mon pied à terre, devant la case, un groupe de chrétiens et un vieux frère avec les ailes de la foi ouvertes. Et à peine le pied sur le sol, je les entends chanter. « Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul, Jésus, mon sauveur, me garde. » Vous ne chantez pas? Il n'y a pas que le prédicateur qui doit travailler. Alors ça m'a bouleversé, ça m'a déchiré. C'est beau de savoir que partout où l'on est, où l'on va, notre Seigneur est là, notre Père Céleste est là, le Saint-Esprit est là qui nous accompagne. Alléluia. L'exaucement de la prière, prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. L'expression qui voit dans le secret signifie qui entend dans le secret. Et regardez ce que dit le psaume 94, verset 9. Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Et après la virgule, celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Donc, lorsque nous prions dans notre chambre, seul ou avec l'épouse ou avec les enfants ou dans l'église, avec les frères et les sœurs, le Père Céleste nous entend et il nous voit. Parce que c'est lui qui a planté nos oreilles, donc il a des oreilles meilleures que les nôtres. L'expression « te le rendra » signifie « t'exaucera, t'exaucera ». Alors pour conclure, un verset de la parole que je n'ai pas cité, mais qui me réjouit toujours devant le Seigneur. Alors il est où ce verset-là? Ah, le voilà. Il y a 31 171 versets dans la Bible. Alors pour les retenir tous, c'est pas facile. C'est 1 Jean chapitre 1 verset 3. 1 Jean chapitre 1 verset 3. Il nous a dit que notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Avec tout ça, on n'est jamais tout seul. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père Céleste.